Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, vous avez certainement remarqué que l'Évangile et l'Épître de ce jour convergent pour nous enseigner une très grande vertu, celle de l'humilité. L'Évangile, en ce qui nous demande d'implorer le pardon de Dieu dans nos prières, et l'Épître, en ce qu'il nous enseigne que nous ne pouvons rien sans Dieu, que de Dieu vient tout bien. Leçon très opportune, tous les saints s'accordent pour nous enseigner que l'humilité est au fondement de notre vie spirituelle. Sainte Catherine de Sienne compare justement notre vie surnaturelle à un cercle, un grand cercle, dont le haut mesure notre amour de Dieu, notre charité, notre degré de charité, et le bas, notre degré d'humilité ou de connaissance de nous-mêmes. Et ces deux extrémités sont, comme en tout cercle, parfaitement liées, de telle sorte que lorsque nous progressons en charité, nous avançons aussi en humilité, et lorsque nous grandissons en humilité, nous progressons aussi dans l'amour de Dieu. Et si nous y réfléchissons un peu, c'est tout à fait normal. La charité nous unit à Dieu, c'est l'amour de Dieu, et par conséquent, elle est la reine de toutes les vertus, parce que c'est par elle principalement que nous atteignons notre fin, notre but, qui est de nous unir à Dieu ici-bas et surtout au ciel. Par conséquent, lorsque la charité augmente, toutes les vertus la suivent, toutes les vertus grandissent. Mais l'humilité a aussi une place primordiale, en cela qu'elle s'oppose au pire de tous les vices, à celui de l'orgueil qui est à la racine de tous les péchés, et donc qui, plus que tous les autres vices, contrarie notre vie spirituelle. Et c'est ce que nous verrons dans ce sermon. L'orgueil contrarie la charité en ce qu'il nous place comme en dehors de l'action salvatrice de Dieu. Dieu veut sauver tous les hommes. C'est la grande vérité de notre religion et comme le résumé de nos rapports avec Dieu. Comme saint Paul le dit dans son épître à Timothée, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il désire tant notre salut qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils unique mourir sur la croix pour nous racheter. Et à tous les hommes, il offre, du moins à tous les hommes qui sont parvenus à l'âge de raison, il offre toutes les grâces nécessaires, suffisantes, pour qu'ils se sauvent. Il n'y a aucune âme en enfer qui ne le soit, sinon par sa propre faute, parce qu'il a refusé le secours que lui offrait le bon Dieu. Dieu veut sauver tous les hommes. Cela implique que nous avons grand besoin de secours. Cela veut dire que nous sommes dans une situation périlleuse. On ne sauve pas quelqu'un qui n'est pas en danger, quelqu'un qui se porte parfaitement bien. Cela n'aurait pas de sens. Non, Dieu veut nous sauver parce que nous sommes de pauvres pécheurs, incapables de nous sauver par nous-mêmes. Déjà, avant notre baptême, nous étions, selon l'expression de saint Paul, fils de colère, c'est-à-dire entachés par le péché originel qui nous rendait dignes de la colère de Dieu et par conséquent impuissants à plaire à Dieu. Notre appel à la grâce fut donc un effet de la miséricorde de Dieu parfaitement gratuit. Mais même après notre baptême, nous sommes incapables, absolument incapables du moindre bien surnaturel sans la grâce. C'est ce que saint Paul nous dit dans l'épître de ce jour. Personne ne dit « Jésus est le Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. En d'autres mots, personne ne peut faire le moindre acte d'adoration, de charité, sans un secours de Dieu. Mais l'orgueilleux, lui, il refuse autant qu'en lui la grâce. Il rejette ce salut dans la mesure même de son orgueil. L'orgueilleux est un satisfait de lui-même. Il veut se suffire et ne dépendre de personne. C'est cela, en fait, la racine de l'orgueil. Voyez la fausse prière du pharisien. Il ne demande rien parce qu'il est bien content de lui-même. Il considère que tout va très bien pour lui. Ô Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ni encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je paie la dîme de tout ce que j'acquiers. Voilà, dans cette prière, ou plutôt comme le remarque saint Augustin, dans cette occasion qu'il prend de la prière pour se louer lui-même, il n'y a aucune demande, il ne demande rien. Et pourtant, il est pécheur, tout comme le publicain, tout comme chacun d'entre nous. Il aurait grand besoin du pardon de Dieu pour ses péchés. Il a grand besoin de la grâce. Il devrait la demander humblement. Et il ne la recevra pas. Il n'est pas descendu justifié, comme le dit notre Seigneur, parce qu'il n'en veut pas de la grâce. Il ne la demande pas. Notre-Dame dit dans son Magnificat « Et surientes in plevit bonis et divites dimisit inanes » Le Seigneur a rempli de ses dons ceux qui avaient soif, c'est-à-dire soif des eaux de la grâce. Et il a renvoyé les mains vides les riches, ceux qui se considèrent assez pourvus en sainteté. Comme le dit l'adage, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Bien sûr, ici comme ailleurs, il y a des degrés. Autre est le refus absolu de la grâce, si caractéristique de notre monde moderne, ce non serviam de Lucifer. Et puis autre est la tiédeur du fidèle un peu trop satisfait de sa propre vie. Il va à la messe, il se confesse une fois de temps en temps, il prie un peu tous les jours, peut-être même beaucoup, et cela lui suffit. Eh bien non, en cela il a bien tort, nous aurions bien tort de nous suffire de cela. En effet, Dieu notre Père a de grandes ambitions pour chacun de ses fils, pour chacun d'entre nous. Il ne désire rien de moins que notre sainteté. Tous et chacun, nous y sommes appelés. Et d'ailleurs, le bon Dieu nous donne sans cesse des grâces pour progresser. Nous sommes dans un pèlerinage vers le ciel. Notre vie n'a d'autre sens que d'avancer dans l'amour de Dieu, parce que nous progressons, comme le dit saint Grégoire, à pas d'amour vers le ciel. Mais la satisfaction de nous-mêmes, de notre état spirituel, vient comprimer en nous toute cause de progrès. Parce que celui qui est content de lui-même ne désire pas, par définition, aller plus loin, ou du moins il ne le désire pas assez. Et pourtant, le désir de progresser est le grand moteur de notre vie surnaturelle. Il nous stimule sans cesse à répondre à l'appel du Sacré-Cœur. Une fois enlevé ce désir, l'âme est livrée à la stagnation spirituelle. Elle n'avance plus, état bien dangereux, parce que celui qui n'avance pas recule. Combien différente l'attitude des saints, celle que nous devons imiter. Saint Dominique, par exemple, jamais il ne fut satisfait de lui-même. Jamais il ne se reposa, comme on dit, sur ses lauriers. Pourtant, quelle vie que la sienne! Il confiait un jour, lorsqu'il était déjà atteint de la maladie qui devait le conduire à la mort, il confiait à l'un de ses frères que, s'il guérissait, il avait bien l'intention de se mettre enfin sérieusement à l'amour de Dieu, à aimer davantage le bon Dieu. Pourtant, sa vie était déjà pleine d'œuvres excellentes. C'est par lui que le monde a reçu le Saint-Rosaire. Il avait évangélisé largement le sud de la France et la Lombardie. Il avait fondé un ordre qui déjà commençait à se répandre à toute vitesse. Mais ce n'était pas assez pour Saint Dominique. Il n'était pas satisfait de lui-même. Et précisément, c'est parce qu'il croyait toujours n'avoir pas assez fait pour la cause de Dieu que sa vie a eu une telle fécondité spirituelle. Sa vie fut tellement absorbée par les choses célestes, tellement tendue vers le ciel, que, comme le remarquent ses frères, il ne parlait que de Dieu ou à Dieu. Et c'est parce qu'il était véritablement humble, se considérant comme un pauvre pécheur, incapable par lui-même du moindre bien, qu'il priait avec une telle intensité. Ses nuits se passaient à l'église, implorant la grâce divine pour lui et pour les âmes, avec une telle véhémence que ses cris s'élevaient jusqu'à réveiller les frères qui dormaient dans les cellules voisines. Et par cette prière si ardente, il obtenait ce torrent irrésistible de grâce qu'il répandait ensuite le jour par sa prédication. Grand modèle, tous nous devons être hantés par ce désir d'une ferveur toujours plus croissante. Et pourtant, si nous considérons nos propres vies, force est de reconnaître qu'au fond, nous sommes bien lâches. Dieu, nous l'avons dit, nous sollicite sans cesse au bien. À chaque instant, il nous donne une abondance de secours pour progresser dans son amour. Que faisons-nous de cette pluie continue de grâce? Pour une seule bonne action, combien d'occasions manquons-nous de plaire à Dieu? Alors nous devons demander au bon Dieu une plus grande humilité, afin de désirer davantage et ainsi de répondre davantage, de correspondre à l'appel de Dieu. Nous n'indiquerons ici qu'un seul moyen, celui d'ailleurs que notre Seigneur recommande dans l'Évangile, celui de demander pardon à Dieu. L'examen de conscience que nous faisons tous les soirs, que nous devrions faire tous les soirs, est un grand moyen de progresser. Tous les saints l'enseignent. Mais pour être vraiment efficace, il faut que ce ne soit pas une simple nomenclature, une simple liste de nos péchés, suivie d'un acte de contrition dit rapidement, sans grande conviction. Non, il faut que tous les soirs, nous demandions humblement pardon à Dieu, que vraiment nous soyons conscients que nous sommes coupables devant Dieu, que nous avons besoin de son pardon. Et ainsi, nous progressons petit à petit en humilité. En conclusion, soyons humbles, car loin de comprimer les âmes, l'humilité est la source de la ferveur la plus brûlante. Soyons humbles, car loin d'engendrer la tristesse, la véritable humilité nous donne la vraie joie, celle de ne nous appuyer que sur le secours de Dieu. Demandons cette vertu à Notre-Dame, elle qui, en se proclamant l'humble servante du Seigneur, fit venir sur terre Jésus-Christ, source de toute grâce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.